Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling.
Mesdames et messieurs et toutes les personnes entre les deux, bienvenue sur Wildside. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans dieu, sans maître et sans publicité. Et on se retrouve, eh bien, pour la première fois depuis des années maintenant, pour une nouvelle édition, une édition transformée de Wildside, dans laquelle nous allons parler de plusieurs choses. On va commencer par écouter des petites interviews qui ont été faites avec des artistes locaux, parisiens ou de la scène proche parisienne, durant un événement organisé par l'association Les Murs Fondent qui s'est passé la semaine dernière. Ainsi que la semaine d'avant, donc le premier était à Montreuil au Mur à Pêche, donc déjà je vous conseille fortement le Mur à Pêche qui est un endroit fantastique, et la deuxième s'est en passée au Hasard Ludique mercredi dernier. Les artistes que j'ai interviewés sont divers et variés, à commencer par Eli and the Hydra, qui est la première interview qu'on va s'écouter, qui est un artiste un peu fascinant, qui est seul sur scène et qui fait un espèce de mélange, on va dire, de rock, prog, psychédélique et d'électro, comme on en entend à la Justice. Mais on va tout de suite s'écouter cette interview et je vous parle un petit peu du concert juste après. C'est parti. Even when she was
given head, she says... Ok, on est parti. Bah écoute, Eli, déjà, je te laisse te présenter un peu ton projet musical.
Alors moi, c'est Eli and the Hydra, et on est un groupe où, en ce moment, je suis seul sur scène, mais ça a vocation à être un groupe, puisqu'en studio, il y a plein de gens qui enregistrent, en fait. L'idée, c'est de mélanger le rock psychédélique et l'esprit des hippies, du Summer of Love, un peu Woodstock, un peu toute cette tradition-là, avec la musique électronique en France, enfin française, tu vois. Okay. L'idée, c'était vraiment de ramener un peu le côté rave, dance floor, etc. avec l'esprit des hippies, parce que tu vois, je pense que les hippies et les ravers ont un peu le même idéal, en fait, tu vois, un peu le même façon d'appréhender le monde, le même rapport militant, le même rapport à la liberté individuelle, tu vois, et c'est un peu ça l'idée, c'est de rapprocher ces deux univers là.
Ok, carrément. Bah alors c'est marrant que tu parles de ces deux univers, parce que je trouve que entre les ravers et la musique des années 70, il y a une grosse différence, c'est que les artistes qui font les deux musiques du côté des ravers sont souvent seuls, alors que la musique des années 70 se joue beaucoup en groupe. Toi, est-ce que le fait d'être seul sur scène, c'est une volonté? Du coup, tu m'as dit que ça allait peut-être changer. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire évoluer avec le temps?
En fait, si je suis seul, c'est un, parce que c'est vrai que c'est moi qui compose, tu vois, toute la musique, et ensuite c'est juste que je fais intervenir des gens qui viennent interpréter, tu vois, des musiciennes et des musiciens. Et moi, j'adorerais pouvoir jouer en live à plusieurs. C'est juste que aussi, tu vois, l'industrie actuelle te fait comprendre que dès que t'es plus de deux ou trois sur scène, en fait, il n'y a plus l'argent pour le faire, tu vois.
Ok, ouais.
Et tu vois, c'est un truc, voilà, le but, c'est aussi de, dans un premier temps, je tourne tout seul, tu vois, parce que c'est quand même un truc assez électronique, donc tu vois, c'est pas si choquant que je sois seul sur scène avec des machines, avec des guitares et des trucs, tu vois. C'est une première façon de montrer ce projet et un peu initier les gens à ma musique, tu vois. Okay. Et dans un deuxième temps, on va commencer à rajouter des musiciens, etc., et des musiciennes.
Ça marche. Et tu souhaiterais que le procédé créatif reste le tien, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait changer? Est-ce que tu penses que d'autres personnes pourraient être incluses dans ce procédé créatif?
Bien sûr, voilà. J'adorerais pouvoir me dire que, tu vois, genre, ok, peut-être que j'ai une envie de chanson, ou même l'inverse, tu vois. On commence par pouvoir jammer des trucs, tu vois, être à plusieurs, vraiment trouver des idées qui viennent de la cohésion même des instrumentistes, tu vois.
Carrément, ouais.
Et peut-être après pouvoir dire, ah tiens, cette jam, ça inspire ça, j'ai envie d'écrire un texte pour ça, et faire enregistrer des voix, tous et toutes ensemble, et tout, tu vois. Ce serait ça un peu le délire, tu vois.
Ok, super stylé. Et alors, je sais que, notamment, tu as cité Saint Vincent dans une
Saint
Vincent, interview.
Que j'ai vu hier. En c'est live, au Fnac Live, c'était gratuit et tout.
Ah,
fallait
putain,
venir.
C'était Fnac Live, merde, ouais, je bossais le cassu. Et bah, en fait, il y a un truc que moi j'adore avec Saint Vincent, c'est notamment son jeu de scène. Je trouve qu'elle a toujours des costumes incroyables. Toi, j'ai remarqué que sur scène, t'avais aussi un apport aux vêtements qui est très particulier. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui fait partie de Eli and the Hydra?
Ouais, bien sûr, c'est... Tu vois, même si j'ai grandi avec des références des 70s, etc., tu vois, genre moi, je me sentirais pas à l'aise d'être sur scène en mode... premier degré, pas de def, chemise à jabot, plus les Santiago, enfin tu vois le délire.
Ouais,
j'adore, c'est un univers dont je viens, mais sur scène j'ai aussi envie d'incarner autre chose, tu vois, et en fait c'est que Saint-Vincent en tout cas c'est une artiste qui m'inspire dans sa manière déjà d'occuper l'espace sur scène, tu vois, comment ça, elle bouge, incroyable. Comment elle interagit avec ses musiciennes, ses musiciens, avec les gens aussi, tu vois, avec le public, comment elle va voir les gens, ce qu'elle dit, etc. Et en termes de tenue aussi, je pense que c'est notamment sur le projet d'il y a, enfin elle avait un disque qu'elle a sorti, enfin c'est celui d'encore avant, pas le dernier, celui d'avant,
ouais, qui était
c'est pas Old Born Screaming, c'est Daddy's Home. En fait elle fait une take aussi sur les 70s, et c'est un truc que moi je fais dans ma musique, et du coup cet album aussi m'avait parlé pour ça, parce que elle a fait sa take sur les 70s en ramenant, tu vois, tout ce côté glam rock, tu vois, cette énergie, tu vois, des Led Zeppelin, des, tu vois, sur scène qui en vrai avait un truc super glam, tu vois, tous les T-Rex, les David Bowie, évidemment, tous les trucs comme ça. Elle a ramené ça, mais avec une take un peu moderne aussi, tu vois. Saint-Vincent, là, quand elle a fait ce disque, en tout cas, je t'en mode.
Ce qui ressemble à ce que tu fais au final, puisque, bah, comme tu me disais tout à l'heure, t'as un mélange. Donc, tu peux citer Saint Vincent, t'as cité quelques groupes comme T-Rex et tout ça, les années 70.
Ouais.
Dans le côté un petit peu plus électro, tes influences, j'entends beaucoup de Justice. Je sais pas si c'est volontaire.
Ça a été un coup de cœur, en fait. Parce que, en gros, moi, j'ai pas grandi en France. J'ai grandi en Espagne, parce que je suis franco-espagnol. Maman espagnole, papa français, on va dire. Et j'ai grandi en Espagne et je suis arrivé à 18 ans ici. Et j'ai découvert que tout d'un coup il y avait grave de la musique électronique ici, alors qu'en Espagne à l'époque c'était moins le cas. Aujourd'hui, aujourd'hui il y a une grosse scène techno, etc. Mais j'ai découvert vraiment la musique électronique et tout. Et le premier truc qui m'a fait accrocher c'était Justice. Parce que j'ai compris avec eux qu'on avait le droit d'avoir une sensibilité rock, machin, dans une musique quand même dance floor, etc.
Musique,
tu vois. Donc eux ils m'ont mis sur la piste, c'est vrai, tu vois, au début en mode de waouh, on peut faire des trucs avec ça.
Du coup, tu dois avoir un attrait pour la musique d'Espagne, puisque tu as grandi en partie là-bas, partiellement au moins. Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet dans ta musique actuellement ?
Non, je pense pas. Je pense que, tu vois, je fais vraiment le choix d'aller puiser dans les trucs qui ont été des coups de cœur, en fait, pour moi, dans ma vie et qui m'ont transformé. C'est-à-dire que la musique espagnole, alors j'ai écouté beaucoup déjà de rock espagnol. On a dans les années 80, c'est après les dictatures. On a eu une sorte de mouvement de libération. On a eu une sorte de mai 68, enfin pas un mai 68, tu vois, mais un truc un peu.
Dans l'idée,
genre 20 ans plus tard, tu vois, où il y avait une libération totale. Tout d'un coup, on a eu des groupes de rock fantastiques, un peu Cold Wave, un peu, tu vois, des trucs un peu très, enfin très rock, etc. Et ça, c'est des trucs qui m'ont accompagné toute ma vie. Mais là, je fais vraiment le choix, tu vois, d'aller chercher le rock hippie, 60s, 70s, etc. Tu vois, et tu vois, c'est un peu un exercice de style aussi, tu vois, dans ce projet. C'est vraiment de ramener les deux et essayer de, parce que sur scène, en gros, tu vas voir, il y a aucun sample, tu vois, sur scène, il y a aucun. Il y a très très peu d'éléments de synthétiseur, tu vois, la plupart des trucs c'est organique, tu vois, les instruments, et c'est que des sons qui rappellent, tu vois, même si c'est composé en mode électro, ça rappelle cette époque, parce que c'est que de la vraie batterie, c'est que du, tu vois, en mode de la guitare avec du phaser tu vois, de l'orgamond, tu vois, jeu de l'orgue, des trucs comme ça, tu vois.
Et alors du coup, pour les gens qui vont écouter ta musique à la radio, que je passerai juste après ça, comment est-ce que tu te comportes sur scène, parce que c'est particulier, t'es seul, il y a pas mal de sonorités, pas mal de sons différents. Comment ça fonctionne ?
En gros, moi je me considère sur scène comme quelqu'un pour faire le lien entre la musique et les gens, tu vois. Genre vraiment, je suis là pour accompagner les gens dans ce qu'ils vont venir écouter. Et moi sur scène, concrètement, je vais jouer de la guitare, de l'orgue, je vais faire du synthétiseur, je vais faire des séquences, en fait, des boucles on va dire, que je loupe, etc. pour pouvoir faire une instru. Et les séquences, par contre, tu vas avoir une batterie qui est enregistrée. Qui est enregistré par moi-même.
Ce dont tu parlais, donc.
Voilà, on enregistre avec mon batteur Joe, qui est un super copain. On enregistre ensemble. Ensuite, on fait tout maison ensemble. Tu vois, il n'y a pas de sample, en fait. L'idée, c'est de vraiment faire tout en mode bio, tu vois, entre guillemets.
C'est
et tout est organique. Et on entend aussi, il y a une chorale, donc, qui est l'hydre, la fameuse hydre de Eli and the Hydra, qui est une chorale de copines, de personnes qui viennent chanter. Des fois il y a moi aussi dans les voix, mais pas toujours, mais bref, l'idée c'est de faire une sorte de petite chorale un peu qui raconte des mantras, qui tourne un peu en boucle, qui te force à écouter le même truc en boucle un peu, tu vois.
Et alors du coup, t'as un attrait pour les voix féminines, c'est un truc duquel t'as déjà parlé par le passé. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça?
En vrai, c'est marrant, je me posais la question, tu vois, et je me demandais, est-ce que t'es en train de fétichiser des trucs bizarres et tout,
c'est vrai que c'est
je me suis posé la question, tu vois, et en fait je me suis rendu compte compte que c'est vrai que depuis le collège, tu vois, où j'ai commencé à faire mes premières prods, des trucs, on avait des projets avec des copains, des trucs comme ça. C'est vrai que tout de suite, spontanément, je travaillais avec des meufs au chant, tu vois. Okay. Aussi, je pense que parce que j'avais plus de copines qui chantaient bien, tu vois, que de copains. Et spontanément, on faisait grave des maquettes, des chansons, des trucs en étant ado avec des meufs. Après, j'ai eu un groupe aussi avec une chanteuse, tu vois, très longtemps. C'était okay. un groupe qui s'appelait Foams à l'époque. Enfin, c'était qui était cool, tu vois. Et, ouais. et en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'avais aucun projet où il y avait eu de la voix masculine, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, mais en fait, je saurais même pas tellement comment placer une voix masculine. En mode, tu vois, dans ma musique, j'entends pas un truc qui ferait un peu. C'est très crooner ou machin, ouais, ou un peu. Vois, ouais. Et en fait, je me rends compte, c'est juste pas mon.
C'est pas ton créneau.
C'est pas le créneau dans lequel en ce moment j'ai envie d'explorer, okay. tu vois. Ça et c'est pour ça que je me vois pas chanter lead en mode être chanteur moi, etc. Ouais. Tu vois, genre, j'ai envie de chorale. J'aime bien, je suis intéressé par l'idée de voix plurielle aussi, tu vois, qu'il y a plusieurs ouais. personnes qui chantent la même chose, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois.
Ok, et du coup, toi, ta voix à toi, parce que tu m'as dit qu'au début, t'imaginais pas une voix masculine, pourtant, ouais. tu es sur ton album. Comment est-ce que t'en es arrivé du coup à convertir ça et à te dire bah si moi je vais mettre ma voix dessus, est-ce que tu chantes d'une certaine manière?
En fait c'est que sur le premier EP j'ai composé un peu enfin j'ai écrit des paroles et je les ai composées dans ma tête on va dire okay. et ensuite j'ai fait venir des copines qui étaient interprètes du coup qui venaient, je leur proposais la mélodie que j'avais pensée et on ouais. voyait ensemble, on réajustait etc. Et là sur le deuxième EP qui est pas encore sorti du coup mais donc, dont je vais jouer une partie des morceaux ce soir, c'est des maquettes dans lesquelles moi j'ai chanté dans la maquette, tu vois. Okay. Donc forcément, ça a ramené en fait, tu vois, les voix vers mon range vocal. Je sais pas si je me exprime techniquement,
fait,
tu
ouais,
vois. Enfin, vers mon range, enfin dire ma tessiture, je sais pas
ouais.
comment on dit.
Ouais, je vois,
donc
ouais.
forcément, ça donne des voix tout de suite qui sont composées, tu vois, genre par ma voix, tu vois. Et, ouais. et du coup, genre, même s'il y a un cœur féminin, tu vois, t'entends que c'est pas pareil, tu vois.
Okay.
Et du coup, j'ai gardé ma voix, soit une voix de la témoin maquette que j'ai gardée dans la version studio, soit j'ai rechanté avec elle, en mode ensemble et tout, tu vois.
Alors, c'est étonnant parce que j'imagine que quand tu composes des voix pour des femmes et pour des hommes, ça n'a rien à voir. Donc, je trouve ça assez fou qu'en fait, tu aies passé le cap et tu t'es dit, mais en fait, si, pourquoi pas.
Ouais, mais en plus, c'est même pas vraiment une question de femme et homme, c'est juste que, tu vois, je pense que j'ai écouté tellement de trucs des 60s, tu sais, où le rock anglais, ouais. notamment anglais, c'est des voix aiguës, tu vois, Led Zeppelin, c'est aigu, ouais. tu vois, genre, il y a plein de groupes en mode, un groupe que j'adore des années 70 qui s'appelle Yes, c'est aussi oui, une voix yes. super aiguë, tu vois, et je me suis rendu compte que c'est pas tellement une question de genre ou de voix blanche, pas voix blanche, machin. C'est plus vraiment une question de comment, dans quel type de notes tu chantes, tu vois.
Ok.
Et c'est ouais. aussi ça, je pense, qui me. Et que spontanément, tu vois, genre quand tu fais chanter des femmes, tu vois, et ça ramène la voix vers ça, tu vois, en tout cas.
Bien sûr, ouais. ouais alors, sur quoi tu bosses en ce moment? Donc, cet EP qui va bientôt arriver.
Bah, je suis en train de mixer l'EP, je suis en train de tourner en même temps, enfin, par ouais. intermittence, tu vois, c'est une tournée pas en mode continu, tu vois, en mode je fais 2-3 dates d'un coup, ensuite je reviens à Paris une semaine, ensuite je fais 2-3 dates, ensuite je vais à Clermont une semaine, je travaille avec mon équipe qui est aussi là-bas, et donc je suis un peu en mode je me balade, et en plus de ça, je mixe l'EP, qui sortira tranquillement.
T'as des dates là, des cas tu peux nous parler en juillet, peut-être fin juillet
ouais. Ouais, là, juillet, demain, je pars pour. Juste après ce concert, je pars à un festival qui s'appelle la Pamparina à Thiers, ce qui est entre Clermont et Lyon. Donc, demain, je joue là. Ensuite, je vais faire des dates dans le Mont d'Or, dans le Sancy, vers le Mont d'Or. C'est en gros. C'est des petits villages, mais c'est une sorte de petite tournée avec des artistes locaux.
Okay.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite date à Biarritz, une petite date. Ensuite, je sais plus.
Mais okay, ouais, on ira regarder ça. Ouais. Eli and the Hydra, donc sur Instagram, sur Facebook.
Sur Insta, Eli.music.
Eli.music, ok, ça marche. On ira regarder ça. T'as tes dates dessus, je suppose?
Ouais, je me mets dates dessus.
Super,
bah,
on ira regarder ça. Bah écoute, merci beaucoup pour ce petit
moment. Bah non, c'était un plaisir.
Et puis, on va s'écouter du coup Eli and the Hydra tout de suite.
Yes.
Et là, Yandy Hydra avec le morceau Love sur Radio Libertaire 89.4. C'était vraiment incroyable comme concert. Il était seul sur scène et pourtant il a mis une ambiance comme pas permis. Il y a vraiment quelque chose de super intéressant dans la manière dont, il joue. Je vous conseille d'aller voir sur internet. Il y a quelques sessions live sur sa chaîne YouTube que vous pouvez regarder. Et sinon, essayez de le trouver en tournée un petit peu partout en région parisienne, peut-être ailleurs en France aussi. Son Insta était dans l'interview. Donc, Eli Andy Hydra ou alors Eli Music sur Instagram. Et vous pourrez trouver un peu toutes ces dates. Ensuite, à Montreuil, on va écouter une autre interview d'un autre groupe assez prolifique sur la scène indépendante qui s'appelle Lulu Van Trapp, un groupe de pop que je trouve particulièrement intéressant dans le paysage actuel. L'interview a été faite un peu dans le noir, juste après la fin de leur concert. C'était une ambiance assez particulière puisque le mur à pêche où on a joué est un lieu extérieur qui, par endroit, juste n'est pas éclairé. Donc c'était une espèce d'interview à l'aveugle. Toutefois très sympathique. On va tout de suite écouter cette interview suivie d'un petit morceau de Lulu Van Trapp. Si vous voulez appeler, n'hésitez pas à le faire spécifiquement pendant les interviews ou alors les pauses musicales. Vous pouvez le faire au 01 43 71 89 40. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, Wildside 89.4. Et on s'écoute tout de suite cette petite interview de Lulu Van Trapp.
Ok, et ben on est parti. Alors du coup, pour commencer, bravo pour ce concert, Lulu Van Trapp. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste rapidement pour nos auditeurs?
Donc nous sommes Lulu Van Trapp, moi c'est Rebecca, il y a...
Manu,
Max
et Nico.
Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez décrire votre musique?
Alors récemment, Max il a trouvé le terme parfait. Pour ce qu'on fait en ce moment, parce que ça bouge souvent. Mais en ce moment, on fait du death pop.
Ok, death pop. Est-ce qu'on peut approfondir un peu sur ce terme? Parce qu'il m'intéresse beaucoup.
Disons que c'est dans le spectre entre le punk et la pop. Genre, c'est l'envie de faire des grandes chansons un peu épiques, un peu qui rassemblent. Et en même temps, on ne peut pas se départir d'une énergie un petit peu dévastatrice.
Ok, et alors ça tombe bien que vous parliez de pop parce que c'est vrai qu'en ce moment, là entre Miley Cyrus qui sort un très bon album d'art pop, Turnstile, avec la dream pop et le mélange de punk hardcore, la pop c'est vraiment sur le devant de la scène de plein de manières différentes. Est-ce que vous, cette pluralité dans la pop, c'est un truc qui vous intéresse vraiment ou est-ce qu'il y a un truc à aller chercher dans le niche, dans les styles un petit peu plus complexes?
Exactement les deux, d'après nous, je pense. Donc on est tous d'accord et toutes d'accord pour dire que la pop c'est un peu le carrefour de toutes nos influences, ouais. Et qu'après c'est le centre névralgique de nos influences et après on écoute tous des trucs qui ont 13 vues sur YouTube et voilà quoi. On okay. est des grands diggers et en même temps des bons yankees, tu vois.
Est-ce qu'il y a des petites recos de diggers justement qu'on pourrait avoir?
J'ai rien là comme ça.
Moi j'écoute Deki Alem en ce moment, c'est un groupe anglais super bien qui mixe le drum and bass et le rap.
Ok, à noter.
Et j'adore ça parce qu'ils ont un accent anglais. Et voilà.
Et alors inversement, non, on peut avoir, si on a plus de diggers, moi je suis chaud de les récupérer. Hein.
Ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a?
Le groupe qui a l'over pour Mannequin Pussy là, il était ouf.
Ah ouais.
Comment ça s'appelait? Quelque chose stop. Hein? Ça s'appelait quelque chose stop.
Faut qu'on retrouve.
Mais... On pourra retrouver sur internet, ouais. Je pense. Ça peut se retrouver.
Voilà, après un parti de Mannequin Pussy au Trabendo, c'était incroyable. La musique anglaise, superbe. Show, c'était. Chair Throw, non, c'était quoi?
Non.
Bref.
On le retrouvera. Ouais. Et alors, à l'inverse, si on peut parler par contre du très mainstream qui vous inspire, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier?
Robbie Williams.
Robbie Williams.
C'est quoi
le très mainstream qui nous inspire.
Ouais, un grand Angels de Robbie Williams.
Ah ouais.
Mais je vais le plus grand passionné.
Bah, en gros, hier on a démonté la scène au concert de Robbie Williams.
OK.
Et on a vu juste My Way et Angels qui sont genre ses deux meilleures chansons à nos yeux. C'était très émouvant.
Ok, très stylé. C'est vrai qu'on n'aurait pas forcément pensé comme ça. C'est pas le premier groupe auquel je pense. Mais toutefois, en effet, Robbie Williams, c'est quelque chose de grave intéressant. Alors, c'est le goat, c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu le film, le biopic. Je sais pas ce que vous en pensez.
Il est tellement bien.
Ouais, Better Bad, ouais, c'est ça. Alors, sinon, de ce que j'ai compris, toi, Max, t'étais dans un autre groupe de punk avant. Pas du tout. T'as pas fait partie de la mouche?
Si, mais on en faisait partie tous les deux.
Ah, vous en faisiez partie tous les deux, ok.
Putain, on m'a effacé de l'histoire.
Ok, ok. Et alors, est-ce qu'il y a des choses qui viennent de ce groupe que vous avez transféré dans
le groupe? Je pense notre les embrouilles. Non, c'est vrai qu'avec Max, on fait de la musique ensemble et on est amis depuis presque 15 ans.
Ouais.
Et du coup, Lulu Ventrap est un peu née des cendres de ce groupe-là, dans une envie genre de se rassembler dans un truc plus doux et okay, avec plus d'amour et d'amitié. Mais ça, c'est devenu vraiment un être en lui-même,
à part entière,
en elle-même.
Ok, et alors du coup, en parlant d'amour et d'amitié, il me semble que Love City, le dernier album, parle pas mal de ça, au niveau des thèmes, de ce qui se passe dedans. Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de comment ça a été écrit, comment ça a été composé?
Tu veux parler?
Ouais, vas-y. C'était... Non, pas tant, mais c'était... Je veux juste clarifier. Je suis là pour clarifier.
Très bien.
Le clarifieur. Je suis, à ce moment-là... Non, mais c'était quand? C'était il y a 2-3 ans. C'était il y a 2-3 ans qu'on a écrit cet album. Non, mais je me rappelle. J'étais grave déprimé, dépressif, slash ce que tu veux. Et du coup, on est parti avec Rebecca à la campagne en Bourgogne, dans une espèce de ville de Sims. Ouais. Trop bizarre, avec genre salle de sport, machin. Les gens se parlaient pas, ils se croisaient pas, c'était pixelisé.
Okay.
C'est un peu un espèce de Minecraft chelou, tu vois, de Desperate Housewives, tu vois.
Okay.
Et du coup, on était là et on a composé une belle partie de l'album finalement. Et une partie pendant le confinement dans notre ancien studio.
Ouais.
Et voilà. Et comment on l'a composé? Le seul truc que nous avait dit le label, c'était essayer de faire des chansons qui peuvent se jouer en acoustique. C'est-à-dire guitare-voix ou piano-voix. Donc okay, c'était notre seule contrainte. Donc on a essayé de faire des chansons. Donc ça, c'était un peu la thématique, quoi. Et je passe le micro.
Ouais. Mais en fait, cet album, c'était. On avait vraiment, justement, pour revenir à la pop, envie de faire un vrai album de pop.
Okay. Tu vois,
genre, justement, ce truc de genre faire des chansons qui ont une base toute acoustique, qui peuvent se tenir en acoustique. Et même, genre, il y a eu à un moment une espèce de directive de notre label en mode faites-moi une chanson que ma fille de 3 ans, elle pourrait écouter et chanter.
Ah ouais.
Et elle avait 3 ans à l'époque, non? Je sais pas, pour moi, elle a toujours eu 3 ans, genre. Elle a jamais eu 3 ans. Elle a toujours 8 ans.
Elle est née à 8 ans.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un truc genre en mode des chansons pour les enfants, donc des chansons pour tous, tu vois.
Okay.
Genre, et vraiment justement de s'emparer du terme, même de la variété un peu, tu vois.
Enfin, ouais.
Et après de l'habiller avec notre espèce de folie et toutes nos influences et tout l'espèce de magma qui nous accompagne en permanence, mais avec une base vraiment genre presque variété, tu vois.
Ok, donc c'était l'idée derrière. Petite question par rapport justement à ces sets acoustiques. S'il y a l'idée, c'était de pouvoir les jouer. Vous les avez joués en acoustique?
Bah ouais, c'est un album qui se traduit assez bien en acoustique. Après, nous on est toujours un peu foufou, quoi. Donc même quand on fait de l'acoustique, on a envie de mettre des banjos et des violons des machins.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais. Acoustique, c'est jamais juste un feu de camp et une guitare, quoi.
C'est vrai que moi, quand je pense à acoustique, évidemment, je pense à MTV Unplugged, mais j'ai l'impression que votre musique est tellement plus grande que ça, qu'une guitare et une voix. Elle peut jouer comme ça.
On a fait des super bons concerts. On avait aussi l'idée de
la balade sonore.
Ouais, ça, au Balade Sonore, on a fait un super bon concert avec des violons.
Ouais, d'ailleurs. Ouais. Pardon.
Ah ouais. D'ailleurs, donc en parlant de cette acoustique, vu qu'on est sur une radio engagée, on en profite. Soutenez les Balades Sonores, qui est un disquaire indépendant parisien à Montmartre, qui est absolument merveilleux, qui est un lieu d'énormément de joie et de rencontres et de très très bonnes digues, et qui soutient énormément les artistes. Et qui est en grande difficulté en ce moment.
Okay.
Et donc, passez-y, allez y acheter un vinyle, allez juste bavarder, faire un don, acheter un t-shirt, quoi que ce soit. Mais c'est maintenant qu'il faut agir contre la mort de la culture indépendante.
Absolument.
Et donc, allez-y très très fort, c'est un très bel endroit.
Et alors, en parlant de paroles engagées, on est aujourd'hui là à un concert pour la Palestine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tiennent à cœur de la même manière que ce sujet-là?
Bah bien sûr, enfin c'est, mais de toute façon tout s'entrecroise, quoi. Mais
non, mais tous les combats sur les inégalités comme ça, c'est toujours quelque chose d'important à défendre et à soulever, en tout cas à tenir informé.
Sur l'album en lui-même est quand même assez engagé sur des questions sociopolitiques. C'est quoi un petit peu le morceau qui vous représente le plus et vos vues sur tout l'album?
Sur tout l'album, Ouais, je pense Metal Hero, c'est une chanson qui cristallise pas mal les combats de l'album, parce que justement elle est très limpide.
Ouais.
Elle a un truc presque enfantin qui est d'une clarté absolue. Et oui, c'est une chanson qui dit vraiment que malgré tout on vit. En fait, qu'on vit d'une façon irrépressible dans ce monde qui étouffe, qui nous étouffe, qui nous échappe, qu'on ne comprend plus, on ne sait pas si on peut même encore exister ici, mais on existe. On ne peut pas faire autrement. Et je pense que c'est vraiment le statu quo de cet album. C'est genre, vu qu'on existe d'une façon irrépressible, et bah, essayons de le faire bien.
Ok.
Voilà.
Carrément. Alors justement, en parlant de cet album, une partie des morceaux est en anglais, une partie des morceaux est en français. Comment vous faites le choix d'utiliser une langue plutôt que l'autre ? Est-ce que ça dépend des thèmes ? Est-ce que ça dépend de la vibe musicale ?
C'est pas mal la musique qui dicte. Enfin, la musique et les thématiques aussi parfois qui dictent la langue, parce que parfois c'est. Enfin, je sais pas. On est très attaché aux deux et. Il y a juste une espèce de truc presque aquatique propre à l'anglais, tu vois, qui est, je trouve, une langue un peu.
Qui est très fluide.
Très malléable.
Oui, très exactement. Malléable, très fluide, ouais. Ouais, c'est
et,
vrai.
Et qui permet d'aborder. Enfin, moi je fais beaucoup de mes chansons d'amour en anglais.
Ouais.
Et je sais pas, genre. Et puis en plus, ça nous permet de aussi nous placer dans un spectre plus grand encore que juste la scène française. Enfin, tu vois, d'exister plus globalement et de faire parvenir les messages plus globalement aussi. Mais ouais, c'est plutôt ça, quoi.
Carrément. Et alors, du coup, en parlant justement d'une musique qui est plus globale, est-ce que vous repérez des fans d'autres pays à droite à gauche ? Est-ce que vous en voyez qui se manifestent ?
Un peu, hein. Ça va ?
Là, pour l'instant, on n'a pas encore trop joué en extérieur de France. On a fait un concert en Allemagne, deux concerts en Allemagne, tous ensemble.
L'Espagne, on a fait l'Espagne.
Non, on a fait des petites tournées vite fait, mais on a à chaque fois une seule ville, tu vois. Donc, les Espagnols viennent pas à Paris, du coup, on peut pas. Si on y retourne, on va aller voir, tu vois. Mais là, on va aller aux États-Unis d'ailleurs à la rentrée.
Ah ouais.
Si, il faut le dire. On le dit sur Radio Liberté. Du coup, on va aller aux États-Unis faire une tournée sur la côte Est en septembre.
Ok, et super voilà. Stylé.
Et du coup, on aura des fans. On aura des fans, mec. Avec Josh. Oh my god. Et c'est tant mieux.
S'il y a un pays dans lequel vous aimeriez jouer plus qu'un autre, est-ce qu'il y en aurait un ?
Moi, ce serait au Japon.
Le Japon.
Ils ont l'air d'être un public excellent. Quand je vois des lives in Japan, ça a l'air
super. Au Mexique, direct.
Argentina.
Ok, c'est vrai qu'alors le Japon, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce qu'il y a une culture de pointu dans la musique, je trouve, au Japon. C'est vrai
pointu,
que c'est
pointu, mais moi j'ai vu des vidéos de Live in Japan et ouais. C'est genre des bêtes de concert, mais ils sont tous hyper droits. Tu sais, genre ils bougent pas.
Genre, ils bougent pas. Quand
ils pogotent hyper droits sans se toucher. Et j'étais en mode genre waouh, putain, c'est technique quand même.
Ouais, c'est vrai, ça demande une pratique assez développée, je pense. On n'a pas cette.
Faut avoir le fluide, quoi.
On n'a pas ça en France. Vraiment, ça se balance les uns dans les autres, quoi. Mais ce qui est très agréable aussi. Je voudrais parler un petit peu de votre procédé créatif. Comment est-ce qu'on écrit des morceaux chez Lulu Van Trapp ? Par où ça commence ?
Ça démarre souvent d'une idée d'une personne du groupe et qui après montre à une deuxième personne du groupe. Souvent ça a été comme ça. Et sinon c'est vraiment il y a une personne qui avec une idée et il montre à où elle montre à tout le monde et genre après on jam dessus et voilà on développe quoi.
Ok.
C'est soit on arrive avec une chanson avec un espèce de squelette, un peu lépreux, branque-ballant.
Ouais.
Et sinon, c'est vraiment juste une idée. Et à partir de là, en fait, ce qui est trop bien, c'est que tout le monde est un peu producteur, productrice. Du coup, bah, d'une idée, on peut vraiment, il peut y avoir quatre visions différentes, tu vois, vraiment.
Ouais.
Tout le monde peut emmener le morceau où il veut, tu vois.
Okay.
Et sauf que nous, on fait ça à quatre. Du coup, c'est quand même hyper intéressant de cogner tous ces esprits ensemble.
Carrément. Et alors, vous êtes actuellement chez un label, vous ne l'avez pas toujours été. Est-ce que votre temps dans la scène indépendante.
On ne sera bientôt plus.
Et vous ne serez bientôt plus. D'accord, ok.
Est-ce qu'on est chez un label ?
On est
dans le jardin du label, là, présentement.
On est, ok.
Ouais, non, mais on est dans le genre plus dans le label.
On est plus dedans.
D'accord, ok. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ou...
Non.
Non,
okay. Nous on n'a rien, on n'a pas envie d'en parler.
Ok, crois. Très bien. Il n'y a, aucun problème. Mais alors inversement, du coup, on peut parler de la scène indépendante que moi j'adore, qui est vraiment fantastique.
Ça, c'est bon ça.
Est-ce que vous avez des petits copains à recommander sur la scène indépendante qu'il faudrait écouter?
Bien sûr. Bah, alors oui, Ménade, Yar, 15-15, We Hate You Please Die, Spoing qui joue là présentement. J'ai très envie d'aller voir le concert.
C'est vrai.
Arthur Fubandini. Il y a plein de gens, Johan Papa Constantino. Mais c'est après. Ah oui, Lavender, Zombie.
Et bah super, ça nous fait plein de recours. Et je vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je sais qu'on a tous envie d'aller écouter Spunk.
On a tous envie d'écouter Spunk.
Juste une petite question. En ce moment, vous bossez sur quoi?
Robbie Williams, mon gars.
Robbie. On fait des nouvelles chansons dont on est hyper heureux et heureuse. Et on est en train de démo ça pour revenir hyper fort et plus unis que jamais.
Super. Bah, voilà. Merci beaucoup Lulu Bentrap. On va s'écouter tout de suite.
Merci à toi.
On va s'écouter tout de suite un morceau à vous. Et puis nous, de notre côté, on va aller s'enjailler sur de la musique. Yeah. Allez, à plus.
C'est quel morceau que vous écoutez?
Je n'ai pas encore décidé.
Écoutez, écoutez Geisha.
Ok,
c'est mon morceau préféré.
On s'écoute tout de suite Geisha du coup.
T'es qui, t'as quoi, tu dois marcher au pas. Pourquoi on veut me couper en deux? Un côté doit plaire, l'autre se taire. Mais comment faire pour rester entière? Sous mes membres et je tiens pas sur mes jambes. Ah, quand le monde se jette sur moi, je me sens comme une proie. J'oublie que j'ai le droit d'être là. Et si j'avais le choix, est-ce que je voudrais être moi? C'est mon corps, mon sang, je le hais, je l'adore et personne. Je vais pas marcher au pas. Mes jambes sont pas faites pour ça. D'un côté je veux plaire, mais sans me taire. Si c'est un problème, c'est ton problème. Quand j'ai des gosses, je pensais pas que l'épée de Damoclès allait s'abattre sur moi. Qu'il se jette sur moi. Mais si j'avais le choix, est-ce que je voudrais être toi? C'est mon corps, mon sang, je le hais, je l'adore et personne.
Yes, Lulu Van Trapp avec Geisha sur Radio Libertaire. Et on vient donc de s'écouter cette petite interview qui a eu lieu durant cet événement dont je vais vous parler un petit peu. Donc cet événement, c'est un événement organisé par l'association Les Murs Fondent, association dans laquelle je fais partie. Et c'était un événement, une sorte de festival qu'on a organisé donc en soutien à la Palestine sur deux jours. Et vous allez écouter maintenant une interview de Dealing for Dimes qu'on a interviewé cette fois au Hasard Ludique, donc pour la deuxième date de cette sorte de festival. Dealing for Dimes, qui est un groupe qu'on avait déjà programmé quelques fois, qu'on aime beaucoup avec le collectif, qui font une sorte de rock alternatif très intense. On va s'écouter cette interview tout de suite et je vous parle un petit peu de cet événement au Hasard Ludique que je dévoilerai au fur et à mesure eh bien, des prochaines émissions, en fait, tout simplement. Bon, on s'écoute tout de suite ça sur Radio Libertaire 89.4. C'est parti.
Alors déjà pour commencer, bah merci beaucoup Dealing for Dimes d'être là pour cet événement pour la Palestine, ça fait méga plaisir. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement
individuellement?
Ah bah on peut faire déjà individuellement et puis ensuite on pourrait parler du groupe.
Individuellement, ok. Eh bien moi c'est Tate, je suis la batteuse de Dealing for Dimes et ravie de faire partie de cet événement.
Moi c'est Clay, je suis le guitariste de Dealing for Dimes.
Moi, c'est Heather Lee et je suis le chanteur de Dealing for Dimes.
Et moi, c'est Raph, le bassiste.
Alors, pour les gens qui vont nous écouter, comment est-ce que vous définissez Dealing for Dimes?
Je pense qu'on peut le définir comme un groupe de queercore.
Alors, j'ai entendu ce terme passer juste à l'instant. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus?
Oui, bah, c'est quelque chose qui est très actuel, qui a peut-être émergé un peu en Angleterre, surtout aux États-Unis récemment. Et c'est des groupes issus de minorités, enfin du monde queer, des groupes d'alliés de queer. Et voilà, je pense que ça nous définit bien. En général, c'est autour du punk, un peu de métal aussi.
Ouais. Voilà. La scène anglaise, britannique et américaine, c'est une scène qui vous inspire particulièrement ou
Ouais, carrément. On a envie de véhiculer un message assez international en fait, français avant tout, bien sûr. Nous, on tourne pas mal sur Paris, donc forcément, c'est aussi important pour nous. Mais à l'international, ce serait vraiment vraiment cool.
Le choix de la langue pour les morceaux, est-ce que c'était quelque chose d'où vient ce choix-là?
À la base, c'était vraiment assez naturel. Ouais. C'est une langue, l'anglais, que tout le monde peut comprendre. Enfin, normalement, en général, tout le monde peut comprendre l'anglais. C'est assez facile d'accès, les gens peuvent comprendre facilement de quoi on parle, le message qu'on a envie de véhiculer. Mmh. Et voilà.
Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une dimension artistique autre que musicale qui est importante pour vous. Bon, je pense notamment au message dans ton dos, Heather. Je pense également à votre clip que vous avez sorti récemment, qui d'ailleurs me fait beaucoup penser à Midsommar. Est-ce que donc c'est une volonté consciente d'utiliser la musique comme véhicule pour autre chose, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient après?
En vrai, c'est carrément lié, parce que dès qu'on a commencé le groupe, que ce soit déjà par les paroles, quasi tous nos sons. Des fois, il y a des sujets un peu plus personnels que d'autres, mais en général, on a quand même beaucoup de sons qui parlent violence conjugale, de... Heather, peut-être tu peux plus en parler que moi, mais on a un son, notamment notre son d'intro de ce soir, Petrichor, qui parle de la guerre. Et de bou baba, la guerre, c'est dégueu. Globalement. Mais en vrai, c'est depuis toujours. On a vraiment voulu se politiser dès le début. Enfin, c'était vraiment naturel. C'était pas un truc auquel on a pensé après.
Oui.
Ça, c'est vraiment venu tout seul. C'est en lien. Vraiment, on a commencé à faire de la musique parce que on avait envie de porter un message politique et social en vrai.
Ok, et est-ce qu'on peut parler un peu des différents messages politiques du groupe, sur quel axe vous êtes?
Déjà, on est quand même une moitié du groupe de Queeros, l'autre moitié d'alliés. Et du coup, on veut véhiculer des messages d'alliés et de personnes qui font partie de la communauté queer et rendre la musique accessible à toutes les minorités, que ce soit de minorités sociales ou minorités de genre. Et même, on est des grosses gauchias. Donc, on veut porter ça avec nous aussi. On veut absolument pas s'en cacher. Et on se permet sans aucun problème pendant les concerts d'intervenir, de faire des petits speeches. Souvent, on est invité à des événements qui ont des thèmes.
Ouais.
Soit en lien avec l'écologie, avec les situations politiques actuelles, avec les situations sociales actuelles, que ce soit international ou national. Et on en parle assez ouvertement sur nos réseaux sociaux même et sur scène.
Est-ce qu'on peut vite fait du coup plug les réseaux sociaux de Dealing for Dimes?
Les plugs, c'est-à-dire
Les données. Du coup,
C'est simple, c'est Dealing for Dimes sur Instagram. On a un Facebook, mais bon, vu que ça y est, le Facebook, on l'alimente plus beaucoup. Mais on a TikTok, on a YouTube. On a sorti notre clip, là, il y a quoi, une semaine, à peine une semaine, sur YouTube. Et des petits réels sur Insta, et puis on peut nous écouter sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, partout.
Ok, et alors du coup, en parlant du clip de Burn, c'était comment?
Le clip de Burn, c'était comment
Comment ça s'est passé, le tournage, l'idée, d'où est-ce qu'elle venait?
Le clip de Burn, il a eu du mal à sortir déjà. Non, en vrai, Burn, déjà, c'est un saut qu'on a fait il y a assez longtemps. On avait déjà sorti un EP dans lequel figure ce son un an auparavant, à peu près, c'est ça, un an auparavant. Et en fait, on a une amie qui est dans une école qui nous a dit « Écoute, on a pensé à vous pour du coup réaliser un clip, donc soit Burn, soit Trash Fame. » Trash Fame qui est un autre son de notre EP du coup. Ouais, le single qui est le single de notre EP. Et ils ont choisi, donc l'école a choisi Burn. Et oui, on était assez d'accord. C'est vrai qu'il était un petit peu plus... un peu plus impulsif, je trouve. Je trouve que l'écriture est un peu plus jolie aussi. C'est assez sympa. Il y a un vrai scénario, effectivement. Il y a un vrai scénario. Donc, du coup, en fait, on a discuté avec les réalisatrices, Tipa et Chloé. Et de fil en aiguille, on a réussi à avoir un beau scénario, de belles images. Ça s'est tourné sur combien de jours? 3 jours? Quelque chose comme ça? 3 jours. On a eu des petites galères.
C'est vrai.
On a eu une carte et du matos.
On a eu du matos. En fait, il y a tout un sac de matos qui s'est fait voler le deuxième jour de tournage. Non, même pas, je dis n'importe quoi. En fait, 3 jours après le tournage, on s'est rendu compte que... ils se sont rendu compte, toute l'équipe, qu'il y avait... toutes les cartes SD et un peu plus de matos qui s'étaient fait voler. Et du coup, on a dû refaire une journée de tournage. Donc du coup, une quatrième journée de tournage pour refaire la moitié des images, quasiment, voire même plus.
Ouais, y a une image avec des fleurs et un trône de fleurs. C'était un peu déchirant le fait d'en avoir beaucoup moins, d'avoir la moitié moins de fleurs, etc. Mais ouais, du coup, au bout d'un an, on a réussi à sortir le clip avec beaucoup de difficultés, même en post-prod. Voilà.
Ok, et du coup, au niveau de... Tu parlais du fait qu'il y avait une histoire derrière, qu'il y a une narration dans ce clip. L'idée, elle vient de vous ou elle vient des réalisatrices?
Des deux, ouais.
Ouais.
Vraiment des deux. C'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Nous, par rapport à l'écriture, ils nous ont proposé des choses. On a dit oui à de belles idées et non à d'autres. Mais en général, vraiment, c'était tout était en accord entre les deux équipes.
Ok.
Et puis l'équipe du coup qui a bossé avec nous, notamment la réalisatrice, l'une des réalisatrices, Tipa, qui est maintenant une très très bonne amie et qui nous aide beaucoup sur même d'autres projets qu'on a, nous, dans le groupe individuellement, qui est vraiment une réalisatrice de dingue. Et du coup, on était vraiment assez sur la même longueur d'onde, parce qu'elle avait vraiment étudié les paroles, l'histoire du son. Du coup, elle nous a proposé un script hyper précis et détaillé, et ça se sentait qu'elle avait lu vraiment et compris... compris complètement le morceau et ce dont on parlait d'autant.
Ok, on peut en parler un petit peu de ce morceau d'ailleurs, de quoi il parle.
Oh waouh, Burn. En général, nos sons, ils ont toujours des doubles significations, triples significations, pour que les gens puissent s'acclimater un peu avec le sujet, etc. Burn, à la base... Burn, c'est un litige entre deux personnes, plusieurs personnes. Et là, en l'occurrence, on avait envie de le... de parler, en fait, du patriarcat. Voilà. De ce patriarcat qui pose ses griffes sur toi sans vraiment essayer, enfin sans vraiment te laisser te lâcher. Et donc c'est pour ça qu'il y a un moment donné où voilà, il y a le personnage principal qui se voit griffer les joues de manière sanglante en essayant de s'extirper, pardon, un peu de ce truc là. Et ouais, globalement en fait c'est essayer d'être en marge et de s'extirper de okay. Tout ça.
Du coup, le deuxième perso principal qui est un peu l'icône de genre comment se sortir des griffes du patriarcat, justement, qui sur la fin du clip on voit un peu berce cette personne qui se fait presque abattre, et un peu pour donner quand même, c'est un son assez comment dire, lourd dans la signification. Mais dans le clip, on voulait qu'il y ait quand même une sorte de fin, d'espoir. Et pendant toute la durée du clip, il y a ce personnage tout en blanc qui tend sa main et qui est vraiment le signe de on peut s'en sortir ensemble, main dans la main. On est là, quoi.
Ok.
Les uns pour les autres.
D'ailleurs, en parlant de la fin du clip, il y a une petite phrase à la fin de la vidéo.
Ah là là ! Cette phrase a beaucoup d'histoire. Alors, petit contexte. Le groupe s'est créé il y a très très longtemps. Enfin, en tout cas, c'était Heather et moi, du coup, Heather le chanteur et moi la batteuse, qui, dès qu'on s'est connus, une alchimie très très forte. Et on a tout de suite voulu faire de la musique ensemble. Donc en fait, on a commencé à faire de la musique ensemble dès nos 16-17 ans.
Okay.
Et on avait créé un groupe déjà. Et en fait, dès ce moment-là, on l'avait appelé Dealing for Dimes. Le groupe a changé de formation un nombre de fois incalculable. Et aujourd'hui, on en est à quoi, 3-4 ans de vraiment ce qu'est devenu Dealing for Dimes pour de vrai. Et en fait, la phrase de fin, c'est une phrase en serbe. Et c'est vraiment un peu une phrase d'amour entre Heather et moi. Okay. Parce que on s'est jamais lâché et on est un peu des flammes jumelles. C'est ce qu'on aime se dire tout le temps. Et c'est ça, c'est parce que je suis serbe, c'est pour ça que c'est une phrase en serbe. Okay. Et que Heather souvent m'envoie des petits mots en serbe, ce qui est très très touchant, vraiment, de voir quelqu'un faire cet effort de venir un peu dans ta culture, puiser dans ta culture et te donner des phrases qui viennent de ta culture, alors que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas de près ou de loin connecté à la culture balkane, qui du coup m'avait dit cette phrase et me l'a dit souvent et me l'a même gravée sur un petit pendentif que wow. Je porte et tout. C'est vraiment une phrase back. On a voulu un peu sur la fin, on s'est dit sûrement peut-être les trois quarts des gens vont pas comprendre ce que c'est, vont pas chercher à comprendre, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu notre easter egg à nous.
Okay. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ce qu'elle dit cette phrase ou on la garde en serbe?
Cette phrase dit uvek ću biti tu, ce qui veut dire je serai toujours là.
Ok. Oui, c'est très beau, ça montre qu'il ouais. Y a vraiment quelque chose.
Il y a vraiment quelque chose de très ouais. Très fort entre nous.
Ce qui va bien aussi avec la narration dans le clip, le personnage de Tatiana qui sauve un peu le personnage d'Heather, du coup qui est toujours là pour Heather. Voilà.
Ok, il y a, je trouve, un côté très théâtral dans vos performances. Est-ce que c'est... Oui, moi je le pense, notamment, encore une fois, je vois ça dans la manière, toi Heather, dont tu le chantes, certains morceaux qui sont au sujet dur, d'ailleurs. On l'a remarqué la dernière fois que j'étais au concert, au Sample, à Bagnolet, je parlais à une fille qui m'a dit « ça m'a fait pleurer », normalement, parce que c'était vraiment très dur. Est-ce que justement cette expression, ce côté théâtral, c'est quelque chose qui a toujours fait partie du groupe, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait sans vraiment le savoir, peut-être ?
Oui et non, sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que oui, on accentue un peu nos émotions et la façon dont on joue, un peu comme tous les groupes du coup. Mais c'est hyper naturel. C'est hyper naturel. On a une alchimie entre tous les quatre et aussi maintenant avec Clarence. C'est juste trop bien et Et oui, effectivement, quand les gens viennent nous voir et nous disent, bah, en fait, ça m'a procuré ça comme émotion, etc. Bah, forcément, on a envie de continuer et d'accentuer toutes ces émotions, de le surjouer parfois. Mais en même temps, c'est la façon dont nous, on est tellement intense, tous ensemble, que...
En fait, la seule chose qu'on a en commun avec tout le monde, tous les humains de la Terre, c'est vraiment par l'émotion. Donc, en ayant un fort impact émotionnel, on crée un sentiment de partage que tout le monde, que ce soit des minorités de genre, minorités sociales, de toute la Terre, en fait, puisse porter notre musique ou le punk, le rock en général, comme étendard. Et l'émotion, c'est vraiment le centre de la musique et c'est ça qui permet de partager et de communiquer avec les gens et les gens ressentent ça très fortement et c'est là où on se rend compte qu'on sert à quelque chose,
ouais,
en fait, et ça c'est bien de communiquer déjà ses revendications,
ouais,
et ses émotions dans une langue que tout le monde parle, et que tout le monde peut partager, et c'est pour ça qu'il y a un côté très théâtral, très émotif, c'est parce que c'est le seul moyen qu'on peut communiquer avec le monde entier, avec tout le monde, de toutes les communautés, qui que ce soit, quoi.
Ok.
Puis même si par exemple il y a des gens qui comprennent pas forcément toutes les paroles pendant le concert, ce qui est carrément normal, si on peut pas le faire ressentir par la compréhension des paroles dans l'instant T, au moins on le fait ressentir par nous, comment on vit le son et le concert sur le moment. Et puis maintenant avec Clarence, je trouve que ça se voit beaucoup. On est tous les quatre assez expressifs sur scène. Et Clarence, ça fait pas longtemps qu'on jouait avec lui. Et rien que le premier officiel concert qu'on a fait, donc le dernier concert qu'on a fait, là c'est le deuxième officiel concert qu'on fait avec lui, ça se sent sur scène direct, quoi, que même lui qui est pas à nos côtés depuis tant de temps que ça, ressent ces choses-là et lui-même est hyper à fond et hyper transcendé par le concert, la musique, puis toute l'énergie des gens, du public et de nous, ça se transmet de ouf. Ce que nous on ressent, ça se transmet de ouf au public et ça se voit notamment même sur les photos, quoi.
Oui.
Ça se voit même dans les photos, ça se voit de ouf.
C'est vrai. Et alors, la composition musicale, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pensez justement à comment ça va être représenté sur scène ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive après ?
En vrai, pas forcément. Quand on compose nos sons, on pense pas à oh, ce serait bien de faire ça sur scène. Nanana. Enfin, c'est pas un truc auquel on pense avant d'avoir composé le son. On compose notre son et en fait, au fur et à mesure des répètes et des concerts, il y a un truc assez cohérent entre nous tous qu'on partage sur scène, ce qui fait qu'avec le temps il y a des moments où on se dit punaise, mais sur ce morceau on est assez d'accord dans nos mouvements, dans comment on se rejoint. Il y a par exemple, il y a un morceau d'Esro dès le début, dès la première fois qu'on les jouait en concert, sur la fin, il y avait vraiment ce truc de se ramener tous ensemble vers la batterie et d'être vraiment genre un peu les bras dessus, bras dessous presque, tu vois.
Ok.
Mais c'est vraiment pas un truc auquel on pense genre avant d'avoir composé un son, ça vient vraiment tout seul.
Ok.
Mais c'est ça, je pense qu'on part d'abord d'une émotion ou des paroles des heures et on construit pas forcément un morceau pour le mettre dans notre set à tel endroit. On part d'abord d'une émotion pour rejoindre ce que disait Clarence, parce que c'est ce qu'on cherche à véhiculer en premier lieu. Et voilà. Après, on essaie de l'emmener un peu plus dans nos influences du moment ou des choses comme ça, mais ça part très souvent premièrement des émotions, en fait.
Ok. Et toi, Clarence, du coup, qui est arrivé un petit peu plus tard dans le groupe, il y a quelque chose qui t'a appelé, qui t'a touché dans Dealing for Dimes, qui a fait que tu as eu envie de rejoindre
Je vais paraître assez répétitif, mais on avait déjà partagé la scène ensemble une fois avec mon autre groupe. Et qui est un groupe de metalcore, punk hardcore, GN, c'est super.
Ok. Ouais.
et juste, j'avais vu et j'ai trouvé ça. Je vais me répéter, mais par rapport à l'émotion qui est dégagée, moi aussi, quand je voyais l'énergie qui sortait de la scène, je me suis dit, putain. ça envoie. Et niveau revendication, j'avais besoin d'un projet où ce que j'allais exprimer sortait de ma personne.
Okay.
Parce que dans mon autre projet, justement, j'étais très... c'est un projet beaucoup moins engagé, revendicateur, etc., par choix. Mm-hmm. C'est un côté très, très émotif, personnel. C'est un projet très personnel, en fait. Et Digging for Dimes avait ce moyen de toucher les gens de manière plus revendicatrice et accéder à plus de... les pensées des gens, de tout le monde, et pas que ouais. les miennes que j'exprimais dans mes paroles avec mon autre groupe. Okay. Donc j'avais envie d'un projet comme ça. Donc ça tombait bien que Tatiana m'envoie un message en mode ouais, tu n'es resté plus là, vas-y, viens, on répète. J'étais en mode show, let's go.
Ah, trop bien. Et alors en ce moment, vous bossez sur quoi ?
Alors en ce moment, principalement, on bosse sur nos sets live parce qu'on a beaucoup de concerts qui s'enchaînent.
Ouais.
Mais dès qu'on a une petite pause, on va se remettre à composer un petit peu.
Un peu beaucoup.
Ouais. Mais pour l'instant, c'est vachement axé sur le live.
Ok, vous pouvez nous donner peut-être les... Ah, ouais.
Et surtout, il y a plein de sons qu'on joue en live là actuellement qui ne sont pas sortis.
Ok.
Du coup, on prévoit là à la rentrée on va peut-être se cacher pendant un petit moment entre nous dans notre petite grotte pour continuer la composition et sortir un EP, voire peut-être un album, qui sait, on ne sait pas. Justement, ce serait super, ce serait vraiment trop bien. Mais justement, on va inclure du coup les sons qui ne sont pas encore sortis et composer d'autres sons avec. Clarence qui nous a rejoint pour compléter cette EP, voire l'album. Donc on verra ça un peu plus tard dans l'année, peut-être 2026, who knows.
Ok, bah on continue de suivre ça. Alors vous avez des dates à nous partager là prochainement cet été ?
Alors, la prochaine date déjà c'est dans 2 jours. Okay. C'est le 11, je crois, 11 mmh. juillet.
Avec Cole Noir.
À la mécanique ondulatoire avec Cole Noir et ouais. Sound of Lies. Avec Nectar, du coup, qui crée l'événement. Mmh. Donc, on a cette date-là très, très proche. Sinon, en août, on a le 9 août, on joue sous le petit chapiteau de la Fierce Faces, qui est une super orga queer écolo, qui nous a invités à jouer pour un événement qui est fait par les Soulèvements de la Terre. Et c'est un événement qui se fait maintenant depuis 2-3 ans.
Okay.
Ça s'appelle Les Résistantes, c'est en Normandie. Là, ça va être à Orne, quelque part entre Orne et un autre village dans des champs. Et du coup, voilà, on est invité à jouer pour les Soulèvements de la Terre avec la Fierce Faces.
Eh bien, super. On va s'écouter un petit morceau de Digging for Dimes. Qu'est-ce que je peux passer comme morceau ?
Eh bien là, en vrai, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais on parlait tout à l'heure justement de l'intervention qu'on pourrait avoir avant un des morceaux qui est Don't Scream, qui est, je pense, le morceau quand les gens disent ah c'est comment ça on l'a pas, mais on l'a pas, punaise, c'est vrai. Et ben c'est pour ça il faut attendre qu'elle sorte. Mais Petrichor, c'est l'intro de notre set. Et ouais. Vu qu'elle parle de la guerre, on peut écouter Petrichor.
Ok, dans ce cas-là, on va s'écouter Petrichor. Digging for Dimes, merci beaucoup pour cette interview et très bon concert à vous.
Merci beaucoup de nous avoir invités.
C'était donc Dealing for Dimes avec le morceau Petrichor sur Radio Libertaire 89.4. Ce concert était, comme d'habitude, excellent, donc au hasard ludique. Dealing for Dimes étant l'un des trois groupes que nous avions programmés. Donc évidemment, merci à eux, merci au hasard ludique aussi, parce que c'était absolument incroyable comme événement. Les deux autres groupes étant Chiptune et Train Fantôme, dont je parlerai un petit peu plus le mois prochain, lors de la prochaine émission. Et pour l'instant, nous allons passer... dans une deuxième partie, à un petit peu d'actualité musicale. Et le groupe dont j'aimerais vous parler, qui fait pas mal l'actualité en ce moment, c'est un groupe du nord de l'Irlande qui s'appelle Kneecap. Et vous remarquerez que je parle du nord de l'Irlande et non pas de l'Irlande du Nord, parce que je pense que les mots ont une importance. Et je pense également que l'Irlande devrait être réunifiée. Donc nous allons parler ici du nord de l'Irlande. Kneecap, c'est un groupe de rap, en fait, qui a percé sur la scène internationale récemment, notamment grâce à la sortie d'un film biopic excellent, et qui est dans les infos après leur passage à Coachella cet été, le festival de musique américain, et Glastonbury, le festival de musique britannique, festival durant lesquels ce groupe aurait flashé donc des grands Free Palestine derrière eux, des drapeaux palestiniens. C'est une cause qui est très importante pour eux, de toute façon c'est une cause qui est importante pour le peuple irlandais de manière générale, puisque le peuple irlandais lui aussi a une volonté de se libérer de ce néocolonialisme britannique. Du coup, Kneecap ne s'en est absolument jamais caché, et pourtant, ça a choqué les organisateurs, ce genre de prise de parole. Du coup, aujourd'hui, Kneecap sont un petit peu dans des batailles légales, entre guillemets, pour essayer de se sortir de ça. Ils ont leurs visas qui ont été révoqués, leurs visas de travail qui ont été révoqués aux États-Unis. Et nous, de notre côté, on les adore toujours autant, puisqu'ils défendent une parole qui nous touche, une parole qui est foncièrement libératrice. C'est un groupe qui n'hésite pas à dire les choses, qui n'a jamais hésité à dire les choses. On peut entendre dans le film une réplique que j'adore, qui est « Chaque mot parlé en irlandais est une balle pour la libération de l'Irlande », car c'est évidemment la première chose qui les préoccupe eux-mêmes en tant que membres du nord de l'Irlande, qui rappe en irlandais, ce qui est aussi quelque chose d'assez particulier. Et pour vous présenter ce groupe, on va commencer avec un premier morceau, qui est l'intro de leur album « Fine Art », excusez-moi, qui est un morceau instrumental, plus ou moins instrumental, en featuring avec un artiste irlandais qui s'appelle Radie Pitt. On va s'écouter ça tout de suite pour rentrer doucement dans le bain, et juste après on ira un peu plus dans le dur avec ce qui fait vraiment Kneecap en premier lieu. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, vous écoutez Wildside, la fréquence c'est 89.4, vous êtes sur la radio sans Dieu, sans maître et bien sûr sans publicité.
Tiens, crack. I'm gonna get these.
You're the best king.
Thank you.
Et donc voilà, c'était 3KAG, 3KAG, donc de Nicap, l'introduction de leur album Fine Art, sorti il y a quelques années maintenant. En ce moment, Nicap sont notamment un petit peu dans l'actualité musicale française, puisqu'ils sont programmés à Rock en Seine, et que le département de Saint-Cloud a décidé, enfin le département dans lequel se passe Rock en Seine à Saint-Cloud, a décidé de retirer les subventions dues à la présence de Nicap, en disant « Nous subventionnons des actions culturelles et non pas des actions politiques », ce que je trouve qui est, pardonnez mon langage, une immense connerie, car la musique est fondamentalement politique, que ces gens-là le veuillent ou non. Alors il faut savoir que le public, de son côté, lui, est derrière Nicap haut et fort, puisqu'il y a notamment pour le set de Glastonbury qui n'a pas été retransmis, qui n'a pas été streamé sur la BBC, évidemment, puisque la BBC ne souhaitait pas se mouiller sur ce genre d'histoire. Il y a Elena Wilson, qui est une fan de Nicap, qui a pris son téléphone et qui a streamé l'intégralité, donc sur les réseaux sociaux, l'intégralité du set de Nicap, et qui a d'ailleurs un petit caméo, sa place, dans le dernier clip qui vient de sortir de Nicap, qui parle justement de tous ces épisodes entre Coachella et Glastonbury. Le public est fort derrière, je suis fort derrière aussi. C'est vrai que l'histoire de l'Irlande, c'est quelque chose qui me touche personnellement, puisque j'ai quelques origines qui se baladent par là-bas. Donc l'histoire de l'Irlande me touchant autant, je suis extrêmement fier et j'adore voir des groupes irlandais aussi ouverts sur ce genre de sujet, qui défendent voilà fièrement ce genre de sujet. Et le prochain morceau qu'on va s'écouter, eh bien c'est un peu le morceau qui les a fait connaître à l'époque où c'était pas le film n'était pas encore sorti, toutes ces histoires n'existaient pas encore. Il y avait déjà un sentiment assez fort dans cette idée justement de faire de l'irlandais une langue vivante dans le nord de l'Irlande, puisque ça a été quelque chose qui n'a pas toujours été évident. Il y a eu une époque même où l'irlandais a failli être banni dans cette partie du pays, dans l'apprentissage des écoles. Et du coup, eh bien, c'était un moment où Nicap avait une place très importante dans le paysage musical nord-irlandais, puisque ils étaient un représentant fier de cette langue dans la culture populaire. On s'écoute tout de suite Hood, H-O-O-D, de Nicap. Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 sur l'émission Wildside et on vient de s'écouter HOOD Hood de Niqab. Et donc alors, l'origine de Niqab est un peu étonnante, on peut la voir dans le film que je vous conseille de regarder d'ailleurs, qui doit être encore en salle actuellement, dans les petites salles parisiennes. L'origine de ce groupe en fait vient à la base de deux jeunes rappeurs à leurs heures perdues, surtout dealer à la base, en fait, qui ont rencontré un prof d'Irlandais, donc dans le nord de l'Irlande, et en fait qui se sont liés d'amitié, et ce prof d'Irlandais a décidé de les aider à faire de la musique, et donc a créé ensemble le groupe Niqab. Ce qui a été compliqué pour lui, puisque en tant que prof d'Irlandais, il avait une fonction qui était quand même un petit peu respectée, donc faire de la musique avec deux dealers, c'était pas exactement facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut le voir sur scène avec une cagoule qui rappelle évidemment un passé révolutionnaire de l'Irlande, hein, on pense à l'IRA, mais également qui servait tout simplement bien à cacher son visage pour ne pas être reconnu par ses proches lorsqu'il était en concert ou lorsqu'il passait dans les clips, lorsqu'il était filmé dans les clips. Donc aujourd'hui il a gardé ça puisque c'est juste tout simplement sa sorte d'identité de scène, mais voilà, ça parle un peu de ce que représente le groupe, de l'esthétique, entre guillemets, de ce groupe tout à fait intéressant. Ils ont sorti un son très récemment, donc comme j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle The Recap, qui parle donc de ces épisodes de Glastonbury et de Coachella. On va s'écouter ça tout de suite sur Radio Libertaire, et juste après, nous passerons à une autre partie de l'Irlande, puisque j'aimerais bien parler un petit peu en fin d'émission du groupe Fontaines D.C., qui est l'un des groupes que j'ai préféré, des albums que j'ai préféré de l'année dernière, et je me suis dit que ce serait sympa de lier ça l'un à l'autre. Mais tout de suite, on va s'écouter The Recap par Niqab, le tout dernier morceau qui est sorti il y a une semaine, même pas, sur Radio Libertaire. On s'écoute ça tout de suite. Let's go.
Blessed, let him door recades, Roy the Ren Cool Schwager, Thompson to Roy the Rich, and real destination beds, the cat give them a frisk, spur on land, no deep, but we know they've got more than S. Grab Lava, I'm a stroll to the bank, get me Cammy's money and give her my thanks. We'll call it reparations, but I knock your wank. Try to take my money, but I came and collected it. Out on a volley, you like to think that you're fooling everybody,
but you're not. Just like the Aaron Lady, your career is gonna rock. Her arm got undercut, the Emmy had a smart. The cap, a rationation, the raw, the current guard. The shot, I got the right, now it's end of the hop.
Me, you Wally, no maggy, call the Lisa, lovey lad. I'm a king, can you get this, come a kick up, kill my dad. Cut the cold, on the car, cut the lid, the can the rock. Throw the crack, or back some fellas from the lower whack.
When they see me, tell a lower and a vodka. Shake me, cause I'm here to stroke ya. While on the roguish and look up on the nota. Since they shoot with me, cops, I'll take them home, lad. You're bad enough, bad enough. Crying for your sherry, bad enough, bad enough. You thought was momentary, called your bluff, bad enough. Wealth of the duration, fuck, bad enough. Nah, 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 in me hella fada. It's Niqab, the recap, we have a forest job.
Effort, Cammy. Power lines in the elections, and onwards and upwards. Free Palestine.
Et voilà, c'était donc Nicap sur Radio Libertaire avec The Recap. Donc, eh bien évidemment, je vous conseille d'aller écouter un petit peu toute leur discographie, puisque c'est un groupe qui me tient vraiment à cœur. C'est un groupe qui est important dans le paysage musical et politique actuel. Et c'est un groupe qui, j'espère, pourra continuer de véhiculer leur message contre le néocolonialisme, malgré les bâtons qu'on leur met constamment dans les roues, surtout en cette période de festival où chaque nouvelle scène est une occasion pour la polémique, d'ailleurs, qui ne devrait pas avoir lieu d'être, mais qui est là tout de même. On va aller dans une autre partie de l'Irlande, donc avec Fontaines D.C., ce groupe irlandais qui a explosé sur la scène depuis maintenant quelques années, mais surtout l'année dernière avec leur album Romance, qui a un petit peu tourné toutes les têtes, puisque c'est une sorte de maturité pour le groupe, voilà, qui avait un peu un passé indie, garage, un petit peu plus roots, entre guillemets, et qui s'est vraiment accompli sur cet album Romance, avec un sont voilà, bien plus matures, bien plus aiguisées, bien plus diverses également, avec des influences qui vont un petit peu dans tous les sens. On entend notamment Lana Del Rey, ce que je trouvais un petit peu étonnant, mais il se trouve que le groupe, grand fan de Lana Del Rey, malgré leurs origines indie rock. Et on va s'écouter tout de suite, moi, mon morceau préféré ever qu'ils aient sorti, qui est le morceau Starbuster, qui introduit plus ou moins cet album Romance, sorti donc l'année dernière. On s'écoute ça tout de suite sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité. Et vous êtes bien sur Wildside avec Fontaines D.C.
Footprints I will follow.
les aime, Fontaines D.C., on les adore. Donc voilà, le groupe irlandais Fontaines D.C. avec leur dernier album Romance, bien loin des débuts, et d'ailleurs c'est bientôt l'heure de se quitter, donc il est temps de voir un petit peu les débuts, justement. Je me suis dit que ce serait intéressant de voir ce qui est sorti le plus récemment et ce qui est sorti à l'ancienne. Le premier morceau qui les a fait un petit peu connaître, qui est un morceau qui s'appelle Boys in the Betterland, qui fait référence évidemment eh bien, à la diaspora irlandaise aux États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui l'émission était tournée sur eh bien, ce festival que nous avons organisé pour la Palestine, également sur l'Irlande. Le message, eh bien, c'est tout simple, c'est libérons la Palestine et la fin du néocolonialisme britannique en Irlande. On se quitte et on se retrouve eh bien, dans un mois exactement pour la suite d'ailleurs de ces interviews que j'ai commencé à vous faire écouter, et pour d'autres actualités musicales ou d'autres morceaux, d'autres programmes. Voilà. On se retrouve le mois prochain, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, c'était Wildside et ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Allez, c'est parti, Boys in the Betterland de Fontaines D.C. au mois prochain.
When the room is spinning and the words aren't sticking, and the radio's on a better runaway model, with a face like sin and a heart like a James Joyce novel, saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. But the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah.
put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in the better land.